Bonjour chers auditeurs, Marie-France Guimaroche est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une émission L'écho de ma commune, aidée par le conseil départemental d'Eure-et-Loire. Je reçois aujourd'hui dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel Monsieur Olivier Marleix, député d'Eure-et-Loire, qui vient nous parler de son livre édité chez Robert Laffont et qui s'appelle Les liquidateurs. Olivier Marleix, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Monsieur le député. Ainsi donc, vous voici devenu écrivain. Je n'ose dire romancier car le sujet de votre livre Les liquidateurs n'est vraiment pas un roman à proprement parler. Il y a longtemps que vous pensiez à écrire ce livre ?
Oui. Vous dites que c'est pas un roman. Non, c'est sûr, c'est pas très drôle comme roman, mais en même temps, c'est une narration. Ça raconte une histoire qui est celle d'un peu de l'effondrement de notre pays depuis 40 ans et comment tout ça s'est scénarisé finalement. Donc oui, moi ce qui m'a donné le plus envie, c'est au début de ce mandat à l'Assemblée nationale, j'ai eu l'honneur de présider une commission d'enquête sur la vente de grandes entreprises industrielles françaises qui étaient fruit d'une grande tradition de dizaines d'années de recherche publique, d'achat public, etc., qui étaient les ventes d'Alstom, d'Alcatel.
Vous dites d'ailleurs, depuis les 30 glorieuses défuntes jusqu'à la braderie des bijoux de famille.
Oui, c'est ça. Et donc c'était vraiment la vente des bijoux de famille. Et en quelques années, on a vraiment vendu des entreprises extrêmement stratégiques. Et j'ai découvert à ce moment-là, c'est le privilège qu'on a quand on préside une commission d'enquête, avec des gros, les pouvoirs de contrôle les plus forts dont dispose le Parlement. Vous pouvez convoquer qui vous voulez, les gens sont obligés de venir, ils témoignent sous serment, etc. J'ai vraiment exploré l'envers du décor, quoi. Et ça m'a donné envie de raconter cette histoire. Puis j'ai continué à creuser un peu plus, à mieux comprendre comment tout ça fonctionnait. Donc c'est l'ensemble de cette réflexion que je livre sur à la fois l'évolution du capitalisme dans le monde, comment ça marche et comment notre pays s'est laissé enfermer, a été victime finalement de cette évolution.
Vous parlez d'un capitalisme illibéral.
Oui, alors là on rentre dans les choses sérieuses, là, dans le dur. Non, en clair, vous savez, aujourd'hui les Français sont paumés, donc, ils ne savent plus quelle est la politique économique qu'il faut mener. Il y a 30 ans, vous savez, j'avais 18 ans au moment de la chute du mur de Berlin. À l'époque, c'était assez simple, il y avait deux camps, il y avait les économies de marché, l'Europe, les États-Unis, le Canada, etc. Et puis, il y avait les pays socialistes, économies soviétiques et pays d'Europe de l'Est.
Qui commerçaient entre eux, finalement.
Oui, qui commerçaient entre eux en autarcie. Et objectivement, c'était la misère. On le sait, il y avait eu des révoltes, etc. C'était la misère. Bon. Et donc, à l'époque, on avait une vision finalement assez simple et assez heureuse de ce qu'était le système de l'économie de marché. Et finalement, il y a eu un consensus au moment de la chute du mur de Berlin sur le fait que personne ne voulait remettre en cause ce système qui semblait avoir vaincu. C'était la fin de l'histoire, comme a écrit un universitaire américain qui s'appelait Francis Fukuyama. On pensait arriver un peu à la fin de l'histoire. Et en fait, depuis, on se rend compte que c'est pas la fin de l'histoire. L'histoire n'est pas heureuse. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et on redécouvre que notamment en France, que finalement, 30 ans plus tard, on a été au bord de la révolution. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment la première question à laquelle j'ai voulu répondre. Et en fait, autant il y a 40 ans, on considérait que le capitalisme, le libéralisme, finalement, c'était un peu la même chose face à ce modèle soviétique. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'économie capitaliste, le capitalisme en fait, mondial, a muté. En se mondialisant, avec de nouveaux acteurs qui sont entrés dans la mondialisation,
ça a d'abord mais qui n'avaient pas les mêmes règles.
Qui n'ont pas les mêmes règles. Ça a d'abord été les pétromonarchies, donc avec des ressources considérables qui étaient celles des revenus du pétrole, ça a été des pays émergents, le Brésil, l'Inde, une partie d'Amérique du Sud, le pays d'Asie du Sud-Est, Singapour, l'Indonésie, etc. Et puis évidemment la Chine, plus récemment, qui est entrée dans cette mondialisation. Et en fait, on a donc ce capitalisme en devenant mondial, en se mondialisant, est devenu quelque chose, il faut le dire, d'assez monstrueux, d'assez nouveau, et n'est plus synonyme finalement de ce qu'était du libéralisme économique au sens où on l'entendait, qui est le fait qu'on considère que c'est de la création, de l'ingéniosité de l'homme que connaît une richesse. Il y a 40 ans, libéralisme, capitalisme, c'était synonyme. Aujourd'hui, le capitalisme, il est devenu illibéral, en ce sens que le capitalisme ne fait que prospérer sur l'absence de règles dans ce grand marché mondial.
Vous appelez d'ailleurs ces 40 années les 40 misérables.
Alors ça, c'est la conséquence pour la France. Mais pour terminer, pour bien comprendre le raisonnement, en fait, dans cette en théorie économique, si vous voulez, on vous apprend que le libéralisme, c'est le libre-échange sur un marché homogène. Mais sauf que le marché mondial, il n'a rien d'homogène. Le marché du travail, par exemple, mondial, c'est on arrive à produire en Chine pour 2 euros de l'heure. Et encore, c'est déjà dans la moyenne haute. Les Ouïghours sont exploités pour moins que ça, évidemment. On commerce dans des pays comme l'Europe avec un voilà, et on met ses dividendes dans un paradis fiscal où il y a zéro fiscalité. Donc ce capitalisme, il est monstrueux en fait, et il ne permet pas à un petit patron français, à une PME, de lutter à armes égales, parce que l'entrepreneur français, il ne pourra pas aller faire travailler des Chinois pour 2 euros de l'heure, et il y arrivera assez difficilement, s'il n'est pas à la tête d'une multinationale, à placer son argent dans un paradis fiscal. Donc en fait, ce capitalisme mondialisé est devenu porteur, ne fait que jouer de l'imperfection ou des imperfections du marché économique mondial, et il tue la liberté d'entreprise dans notre pays. Donc pour nous, ça a été effectivement le revers de cette médaille, ça a été les 40 misérables, parce que notre pays, qui n'a pas été assez préparé, qui n'a pas affronter, comme il aurait fallu le faire, cette mondialisation de l'économie, qui n'a pas que des défauts. Hein. On l'a pris en pleine figure et on s'est appauvri progressivement. C'est la perte de 30% des emplois industriels ces 20 dernières années, etc., etc. Mais en fait, c'est un mouvement commencé au premier choc pétrolier.
En fait, là, vous parlez de la mondialisation, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi d'énormes problèmes dans notre Europe, simplement dans l'Europe, et vous faites partir ces problèmes depuis la réunification de l'Allemagne?
Oui, plusieurs choses. D'abord, ça, c'est le paysage mondial qui a changé avec la mondialisation de l'économie et une économie de plus en plus financiarisée. Pour bien comprendre, il y a un chiffre, un ordre de grandeur, mais on considère qu'il y a en permanence 14 000 milliards d'euros de liquidités qui circulent à travers la planète et qui cherchent un endroit où se poser. 14 000 milliards d'euros. C'est-à-dire que c'est la capacité en permanence à voir n'importe quelle de nos grandes entreprises être rachetée par quelqu'un dont on ne sait pas ce qu'il en fera. Ça, c'est la mondialisation de l'économie. Après, en France, comment on a géré ça? Moi, je considère que depuis 40 ans, en fait, on a commis une erreur. J'essaie de ne pas tenir sur votre antenne un propos trop politique, mais en fait, on a une vraie trahison, de certaines de nos élites qui nous ont dit, mais il n'y a pas d'alternative, il faut accepter la mondialisation, l'ouverture au grand marché mondial. Et OK, ça va faire un petit peu de casse, nous disait-il de manière un peu cynique, mais il suffira d'un peu de redistribution, d'un peu de social-démocratie.
Vous appelez la serpillière.
Voilà, et on arrivera à passer à réparer les dégâts, et en fait, ceux qui sont sur le carreau, on leur donnera des bonnes indemnités de chômage, des bonnes indemnités de subsistance, et puis ils arrêteront de couiner. Ça, c'est la théorie de gens comme Alain Minc, qui conseille ça à la plupart de nos dirigeants depuis 40 ans.
Et en fait, et notre économie... Et vous qualifiez son œuvre de bijou de cynisme.
Il y a un petit livre où il dit ça. Il dit « il n'y a pas d'alternative au grand marché mondial ». Alors que moi, je considère qu'il est très dangereux, ce grand marché mondial. Et il suffit juste une touche de redistribution de social-démocratie pour que les victimes dans notre pays arrêtent de couiner, arrêtent de faire du bruit.
En fait, c'est là-dessus que notre économie se fracasse. Je rappelle juste, les chiffres dont vous faites état, c'est 1% de la population mondiale, la France, 5% de la richesse mondiale et 15% de la dépense sociale.
C'est ça. Ça montre à quel point le système il n'est plus soutenable, en réalité, pour la France. Parce que pour financer cette redistribution... En fait, on finance que les économies, ça paraît une externalisation de la mondialisation. On passe à serpillière sociale, si vous voulez, c'est plus facile à comprendre. Mais ben, pour le financer, il faut toujours plus de dépenses publiques, donc toujours plus de prélèvements d'impôts sur nos entreprises, ou sur tout le monde d'ailleurs, pas que sur les entreprises, toujours plus de fiscalité. Et donc nos entreprises sont de moins en moins compétitives dans ce grand marché mondial. Donc c'est vraiment la quadrature du cercle. Et dans un premier temps, ben, on a vu... Ça a fracassé notre industrie, qui effectivement ne peut pas, dans des conditions d'avoir les mêmes conditions de concurrence, de prix, que la Chine ou même que l'Europe de l'Est. On va y revenir parce que c'était votre question sur l'Europe. Notre pays se fracasse depuis 40 ans sur ce double choix qui est perdant-perdant, grande ouverture au marché mondial, dont on compense les effets délétères par de la redistribution qui suppose de plus en plus d'impôts. Donc en clair, on dit à nos chefs d'entreprise, allez-y, plongez dans le grand bain de la mondialisation, mais on leur met au pied un gros boulet d'un côté qui est la fiscalité et de l'autre des normes à n'en plus finir. Et donc évidemment, bah, on coule. Et le pays, globalement, il s'enfonce petit à petit. Et tout ça est désastreux. On a d'abord sacrifié notre monde ouvrier. Alors, ces grands esprits comme Alain Minc, etc., disent c'est pas grave, parce qu'ils ont une espèce de mépris de classe, tous ces gens-là, et être ouvrier, c'était sans doute pas un sort à leurs yeux, très, très enviable. Donc, c'est pas grave que ces métiers-là disparaissent. Sauf qu'en réalité, ils se sont totalement trompés dans leur analyse, parce que ce jeu, il est sans fin. Et donc, non seulement on a laissé dépérir notre industrie et ce qu'on appelait autrefois la classe ouvrière.
Mais aujourd'hui, ça n'est plus
que la classe ouvrière. Aujourd'hui, c'est tout un tas de métiers qui commencent à déménager. Vous avez plein de bureaux d'études avec sur des emplois d'ingénieurs qui sont délocalisés en Inde. Ou en Inde, vous avez des informaticiens, des ingénieurs aussi brillants qu'en France. Donc, ce n'est pas que la classe ouvrière qui a laissé sa peau. C'est de plus en plus de métiers, de plus en plus de monde dans notre pays. Donc, ce système, il est totalement... on en arrive au bout. Il n'est pas soutenable. Il va falloir faire exactement l'inverse de ce qu'on a fait depuis 40 ans.
Radio Grand Ciel.
Vous êtes toujours sur Radio Grand Ciel avec Marie-France Guimard-Roche pour l'émission « L'écho de ma commune ». Olivier Marleix est dans nos studios de Radio Grand Ciel, les studios du Rocas, pour nous parler de son ouvrage qui vient d'être édité aux éditions Robert Laffont et qui s'appelle « Les liquidateurs ». Vous parlez aussi d'un propos que tenait, ou a écrit d'ailleurs peut-être, Emmanuel Todd. La dette permet de perpétuer le financement de l'État social. Le monde populaire, certes laminé sur le marché du travail, peut néanmoins se faire soigner si nécessaire.
Oui, c'est ça. C'est ce que je décris d'une autre façon, en disant qu'en fait, on a acheté la paix sociale avec de la redistribution, donc de l'impôt. Et comme à un moment, on ne peut plus trop lever les impôts, qu'est-ce qu'on fait ? On creuse la dette. Donc c'est cette dette, elle permet de payer les externalisations de cette mondialisation. C'est elle qui permet d'acheter la paix sociale.
Mais on creuse la dette jusqu'où ? Parce qu'en fait, là, pour le moment, ça va bien, les taux d'intérêt baissent. On emprunte à un taux négatif.
C'est fini. Alors où nous parlons, c'est fini. On commence à avoir des différences de ce qu'on appelle les spreads, c'est-à-dire les écarts entre taux d'intérêt.
Et quand ça va vraiment remonter, est-ce qu'on risque la banqueroute ?
Mais évidemment, c'est ce qui s'est passé en Italie. Regardez l'actualité. Vous savez qu'en Italie, on avait deux partis extrémistes, extrême gauche et extrême droite, qui s'étaient entendus pour gouverner ensemble. Et vous avez pu remarquer qu'il y a trois semaines, pas plus tard qu'il y a trois semaines, c'est très récent, ces deux partis extrémistes l'ont mis en sourdine. Argentine, ont disparu du jeu politique et se sont entendus pour rappeler M. Mario Draghi, qui est l'ancien gouverneur de la Banque Centrale Européenne. Donc le type qu'ils montraient tous du doigt en riant il y a quelques années, là ils l'ont appelé au secours, tous ces gens-là, tous ces donneurs de leçons extrémistes. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt à 10 ans en Italie étaient passés de environ 0%. Nous, ils étaient à moins 22, ils sont à moins 0,22 en Allemagne, moins 0,22 en France. En France, ils sont en train de redevenir positifs. Et en Italie, ils étaient remontés à 1,90%. Donc, quand vous avez 2 000 milliards de dettes, enfin, je ne sais pas quel niveau sont les Italiens, ils sont à 130% de leur PIB.
Et nous, on est à
120% de notre PIB, mais en réalité un peu plus. Eh bien, ça devient tout de suite, c'est vous risquez la banqueroute, quoi, parce que votre dette, vous la financez en permanence sur des marchés financiers mondiaux. Et quand du jour au lendemain, cette année, la France a emprunté. La France a plus de 2 000 milliards de dettes. Elle a emprunté cette année un peu plus de 350 milliards d'euros. Donc, si les taux d'intérêt bougent un tout petit peu, et ben, immédiatement, la charge annuelle en capital, elle augmente, elle augmente immédiatement de quelques dizaines de milliards d'euros potentiellement sur
sans
une année.
Sans même penser au remboursement. Là, on est juste sur le paiement des intérêts.
On est juste sur les intérêts annuels.
Et donc, la dernière fois qu'on a frôlé la banqueroute, c'était sous De Gaulle.
C'était avant De Gaulle, quand De Gaulle est arrivé, on l'a rappelé au pouvoir. C'est quelque chose que je rappelle dans le livre. La raison du retour au pouvoir du général De Gaulle en 1958, ça n'est pas que l'Algérie. C'est en réalité que le système était à bout de souffle et que le pays était au bord de la banqueroute. Et donc, pour restaurer la confiance, on va chercher le général De Gaulle, un peu comme les Italiens savent s'entendre et aller chercher quelqu'un en dehors du jeu politique parce que tout dérape. Et donc, en France, on est le prochain pays sur la liste après l'Italie. On le sait. Hein. C'est pas un secret que je vous révèle en disant qu'on est le prochain sur la liste. Quand on regarde le taux d'endettement des grands pays en difficulté en Europe, on a eu la Grèce qui est aujourd'hui...
La Grèce a vendu le Pirée aux Chinois pour se sortir de là.
Ils ont dû tout vendre pour se sortir de là. Ensuite, il y avait l'Italie. Et le prochain, c'est la France.
Bon, Qu'est-ce qu'on peut vendre ?
On a déjà vendu énormément de choses. C'est la France à la découpe, hein. On a déjà vendu énormément de choses, mais demain on peut imaginer, on a failli vendre l'aéroport de Paris. Demain n'excluons pas qu'on sera obligé de vendre du patrimoine national. Je parle pas de Versailles, mais pourquoi pas ? La situation peut être celle-là. C'est pas une plaisanterie. La France est aujourd'hui un des pays qui est au bord du gouffre en termes de dette. Voilà. On feint de l'avoir oublié depuis quelques années, mais c'est une vraie difficulté.
Alors, il faut faire quoi ?
Alors, en fait, il faut sortir de ce système sur lequel on se fracasse, qui est donc toujours plus d'ouverture au grand marché, avec les conséquences sociales désastreuses dans notre pays, financé, rendu possible pour éviter la révolution par toujours plus de redistribution de dépenses sociales. En clair, l'idée, c'est que si on avait une petite dose un peu plus de protection en haut, si on avait un État un tout petit peu plus protecteur de son économie, qui arrête de la pousser dans ce grand bain de la mondialisation, qui arrête de vouloir tout vendre en permanence, de considérer que c'est formidable que nos entreprises soient rachetées les unes après les autres par des investisseurs étrangers. Si on était un tout petit peu plus protecteur...
À ce moment-là, on parle d'attractivité, évidemment.
Bien sûr, on emploie des mots qui vont bien et que les agences de communication répètent pour que les journalistes économiques les reprennent à leur compte. Si on arrêtait de regarder les choses comme ça et qu'on était un peu plus protecteur de notre tissu économique, alors c'est une stratégie pied à pied qui se construit, on pourrait redonner un peu plus de liberté à nos entreprises, un peu plus de marge de manœuvre, les assommer sous un peu moins de fiscalité, un peu moins de normes, et leur donner le moyen de reprendre un peu pied. Et donc, voilà, en défendant notre appareil productif, en l'aidant à reprendre un peu de vigueur, on pourrait employer un peu plus de monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on licencie en France, en clair, pour faire travailler des Chinois. Bon, peut-être si on faisait l'inverse, si on défendait un peu mieux notre patrimoine industriel, on ferait travailler un peu plus les Français et il y aurait donc besoin de redistribuer un peu moins. C'est vraiment l'inverse de ce qu'on fait depuis 40 ans. Ce modèle a échoué. Il faut remettre un peu de protection dans notre économie. Et c'est un défi qui est français. C'est un défi qui est évidemment européen. Alors l'Europe, elle ne bougera pas toute seule spontanément. C'est à la France de la faire évoluer, puisque l'Europe, en fait, a été a été vendu aux Français comme étant un outil de protection, justement, dans la mondialisation. Moi, ce que j'ai compris au moment des campagnes de Maastricht, et de, etc., c'était finalement, la France n'est plus qu'un petit pays de, à l'époque, à peine 60 millions d'habitants, sur une planète qui en compte plusieurs milliards. Si on veut demain peser dans ces échanges, il faut qu'on soit plus fort, il faut qu'on soit européen. Or, en réalité, l'Europe n'a pas été celle qu'on nous a promise, elle n'a pas protégé, mais l'Europe, elle a été le cheval de Troie, au contraire, de cette mondialisation, avec un exemple très, très clair, qui est qu'aujourd'hui, vous pouvez en Europe, notamment vous avez vu l'élargissement aux pays d'Europe de l'Est, qui font qu'on peut produire dans une partie des pays d'Europe de l'Est à peu près presque aussi bien qu'en Chine, hein, avec un coût du travail qui est de quelques euros de l'heure. Et vous pouvez, tout en étant un acteur européen, donc produire pour quelques euros de l'heure en Pologne, en Tchéquie, et aller placer vos dividendes aux Pays-Bas ou en Irlande, qui sont des espèces de simili paradis fiscaux. Donc l'Europe, c'est un concentré des monstruosités de la mondialisation, élément de protection.
Je pense avoir lu ça dans votre livre. Vous dites que la France se dilue dans l'Europe.
Oui, ben certains ont ce projet, cette espèce de fascination. C'est le cas du président de la République actuelle, du président Macron, hein, une fascination pour l'Europe. Il considère que, je pense qu'il se définit très largement comme un Européen, comme quelqu'un qui est partisan des États-Unis d'Europe, en quelque sorte, un système fédéral. Il considère qu'il faut s'aligner sur l'Europe. Voilà. Tant que l'Europe n'est pas un marché elle-même homogène, il n'en sortira que des choses assez monstrueuses. Quoi. Voilà. L'Europe doit redevenir ce pourquoi les Français l'ont accepté, ce pourquoi ils se sont battus, c'est-à-dire c'est plutôt un élément pour nous redonner une force collective dans le grand marché mondial et non pas pour être systématiquement cette espèce de bon élève, espèce de pavillon témoin de la mondialisation. Quoi. L'Europe, c'est devenu ça. C'est, nous sommes l'idiot du village planétaire, comme on dit, ou le pavillon témoin, une fois encore, de cette mondialisation la plus atroce. Quoi.
Maurice Allais, vous le citez, prix Nobel d'économie, à propos du libre-échange, disait qu'il n'est profitable qu'entre pays de niveau de vie comparable. Comment est-ce possible ? En Europe, donc, entre l'Europe de l'Ouest, en France, Allemagne, Italie, hein, et puis l'Europe de l'Est.
C'est une grave erreur. Vous savez, l'élargissement a été extrêmement problématique. Et ce qui a été dramatique pour la France, c'est la concomitance de l'élargissement et du passage à l'euro. La France est une économie, c'est des considérations économiques un peu savante, mais les économistes disent que la France est un pays structurellement qui a toujours été plus inflationniste que l'Allemagne. Vous savez, il y a des pays où l'économie est moins sage que dans d'autres, et donc les pays d'Europe du Sud ou la France, c'est des pays plus inflationnistes qu'Allemagne. Et donc, une fois tous les 10 ans, 15 ans, 20 ans, on était obligé de faire des dévaluations pour
rentrer dans le serpent monétaire.
Non, on faisait des dévaluations qui nous permettaient de retrouver de la compétitivité. Nos produits se vendaient plus facilement à chaque fois qu'on dévaluait notre monnaie. Depuis qu'on est dans l'euro, on ne peut plus le faire. Bon. Donc on a une contrainte très forte. On ne peut plus dévaluer pour retrouver de la compétitivité.
Donc, mais vous dites aussi qu'on ne peut pas sortir de l'euro.
Mais oui.
Autrement dit, les Anglais ont eu raison de ne pas y rentrer
ils sont rentrés dans son sortie. Pardon, vous avez raison.
Sur
l'Europe, donc, on a cette rigidité liée à l'euro. Et au même moment, on a laissé les pays d'Europe de l'Est rentrer, qui ont été une formidable opportunité pour les Allemands, puisqu'en fait, les pays d'Europe de l'Est dont on parle, la Tchéquie, la Hongrie, la Pologne, sont les voisins de l'Allemagne. Et l'Allemagne, en fait, elle s'est fait sa petite Chine intérieure, qui lui a permis de délocaliser une partie de ses productions et de réintégrer les produits finis en Allemagne. Évidemment, elle ne vous dira jamais que ces Mercedes sont faites pour moitié en Tchéquie, etc. Elle ne le dira pas. Ce sera toujours made in Germany. Mais c'est une facilité pour elle. Alors que nous, évidemment, on est un peu plus loin. On n'a pas pu organiser les choses. Ce n'est pas de l'autre côté de la frontière. Et on n'a pas eu cette stratégie qu'ont eu les Allemands, un peu astucieuse. Nous, on a un peu délocalisé au Maghreb, un peu délocalisé en Espagne, un peu au Portugal, un peu délocalisé en Tchéquie, en Pologne, un peu délocalisé en Chine. Enfin, on n'a pas eu de stratégie aussi savante que les Allemands. Et puis les Allemands ont fait des choses, ont anticipé l'arrivée de l'euro. C'est-à-dire qu'ils se sont eux-mêmes donné des éléments de compétitivité supplémentaire en baissant le coût du travail. Juste après le passage de l'euro, ils ont fait la TVA sociale, par exemple. C'est-à-dire qu'ils ont réduit leurs charges sociales, ils les ont reportées sur la TVA, donc sur des produits importés en réalité. Et donc la baisse du coût du travail, enfin, ça a permis une baisse du coût du travail à ce moment-là. Donc, à euro constant, leurs produits devenaient plus compétitifs. Nous, on a fait l'inverse à ce moment-là. C'est-à-dire que nous, le même gouvernement qui nous a quand même fait plonger dans ce grand bain de la mondialisation, qui nous a imposé le passage à l'euro, qui a accepté l'élargissement, etc., nous avons dû en même temps les 35 heures en France.
Donc, c'est à ce moment-là que tout a basculé, à votre avis.
Oui, mais quand on regarde, en fait, la désindustrialisation de notre pays, elle a commencé au premier choc pétrolier. Et elle
74,
s'est
74, 74.
Et elle s'est poursuivie de manière extrêmement régulière jusqu'à il y a quelques années, avec un vrai décrochage qui est l'an 2000. Et depuis l'an 2000, notre balance commerciale est devenue déficitaire. La balance commerciale, c'est un indicateur que plus personne ne regarde dans notre pays. On s'en fiche. Pourtant, la balance commerciale, c'est la photographie de l'appauvrissement au quotidien du pays. Ça veut dire que vous êtes obligé de... Vous payez plus de produits, vous achetez plus de produits à l'étranger que vous n'êtes capable d'en vendre. Donc quand vous faites ça, vous faites sortir des devises et vous ne faites rien rentrer en échange. Donc c'est un appauvrissement.
Et les consommateurs sont responsables quand même un peu,
autrefois, on faisait très attention à la balance commerciale parce que justement, à force de faire sortir des devises, il y a un moment, votre monnaie, en fait, perdait de sa valeur. Et donc ça vous crée un vrai problème. Depuis qu'on est en euros, on est totalement paresseux et on laisse notre balance commerciale s'effondrer. Et là, on vient de toucher le fond. On est à 100 milliards d'euros de déficit annuel. Donc, c'est la photographie de notre appauvrissement auquel, malheureusement, on prête guère attention aujourd'hui.
Depuis la création de l'euro, on a perdu une somme absolument faramineuse.
Il y a plusieurs chercheurs qui ont fait des travaux sur le coût de l'euro. Mais enfin, on considère clairement que le passage de l'euro a eu un coût. Enfin, il y a des pays qui ont été gagnants et des pays qui ont été perdants. Et nous sommes clairement appauvris depuis le passage à l'euro.
Merci, Monsieur Marleix. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour continuer à feuilleter votre livre « Les liquidateurs » aux éditions Robert Laffont. Au revoir, chers auditeurs. J'espère que cette émission vous a passionné. Elle a été enregistrée et réalisée par Émilie Glory dans les studios d'Urocas de Radio Grand Ciel.